Moi, j'ai un Apple Mac.
C'est mieux que ça? Qu'est-ce que tu... Tom? Erev Tov les Koulam! Erev Tov les Koulam! Donc, on a dit, le shiur, il est Leiloui Nishmat Binyamin Zehev Herzl Sroto Yagen Alenu. C'est-à-dire, on participe, alors pas dans les conférences Zoom, mais on s'associe à l'élévation de l'âme de celui qui a eu le mérite de nous montrer la voie du retour en Israël. Shalom, shalom. Et donc, on s'associe évidemment. OK ? Oui ? Et également, oui, tu m'as dit le nom ? Moshe ben Avraham. Leilo Nishmat Moshe ben Avraham. Nishmat Moshe. Du Rav Ackerman. La mère du Rav Ackerman. Belle-mère. Zé. Moi, j'ai plus. Bon. Bon. Nous. Ida et Ackerman. Betzader. Tov, les amis. Ça y est, on avance à grands pas dans le livre de Shemot. On est déjà à notre troisième cours du livre de Shemot. Et nous sommes au chapitre Bet, verset Yud Aleph. En fait, on avait fini le verset Yud Aleph. On va juste reprendre là-bas, parce que c'est quand même il y a deux semaines, donc histoire qu'on se rappelle de quoi il s'agit. Donc, hop là. On avait expliqué que Moshe a une double identité. Mais c'est pour protéger la gorge. Parce que Yesh Omrim. Bekitsour, on a vu que Moshe, il avait une double identité. Double identité, c'est-à-dire, il est d'un côté égyptien et de l'autre hébreu. Il est hébreu parce qu'il est le fils légitime de Amram et Yocheved, avec une bat Lévi. On avait expliqué il y a deux semaines pourquoi est-ce que là-bas c'était volontaire qu'on. C'est-à-dire qu'on nous a mis en valeur son nom égyptien. Où est-ce qu'il est égyptien ? OK ? Et on a terminé en disant que Vayehi Bayami Mahem, donc verset Yud Aleph, Vayigdal Moshe, Vayetse El Echav, Moshe a grandi. Alors, ce n'est pas le même Vayigdal. On avait expliqué que simplement il a grandi. Là, Vaïgdal Moshe, nous dit Rachid, c'est que Ugadal, c'est l'Igdoula. Il est devenu le régent de l'Égypte. Il est le prince d'Égypte. Et on avait dit la semaine dernière que je m'oppose formellement à toutes les versions filmées du prince d'Égypte, qu'elles soient dessins animés ou films de Cécile B2000 ou autres, car là-bas, on nous montre à chaque fois Moshe comme étant quelqu'un qui grandit avec un autre prince d'Égypte. Et qu'à aucun moment dans les films Torah, il est censé être le futur pharaon. On ne sait pas du tout qu'il grandit avec un autre. Mais personne ne nous a dit qu'ils ont grandi ensemble. OK ? Et Moshe, ça veut dire que Pharaon l'a nommé. Donc on a demandé c'est qui Echav ? En te demandant c'est qui Echav ? Nahon ? Et tu m'avais, enfin il y a deux semaines, et tu m'avais dit Echav, c'était les Hébreux. Et je t'avais dit mais comment peux-tu t'opposer à Rabbeinu Avraham Ibn Ezra ? Qui dit que ce sont les Égyptiens. Et tu t'étais repris en disant, bon, alors c'est les Égyptiens. Et je t'ai répondu, mais comment peux-tu t'opposer au Ramban qui dit que ce sont les Hébreux. En d'autres termes, c'est qui Echav, ses frères. Eh bien, on a dit, Moshe a été vérifié. Qui avait raison, Ibn Ezra ou Ramban? C'est-à-dire qu'il ne sait pas encore pour qui il va prêter serment, à qui il va prêter serment, pour qui il va prendre fait et cause. Pour l'Égypte ou pour Israël? Et il a vu leur sivlotam. Certains ont dit, bah alors voilà, c'est clair, c'est évident, parce que sevel, ça veut dire souffrance. Sauf que non, nous dit le Ramban, oui, ça veut dire souffrance, mais nous dit Ibn Ezra, ça veut dire travaux. Sevel batanach, ça veut dire le travail. Et on avait expliqué que bien que, évidemment, les Égyptiens employaient des esclaves hébreux, les chefs de champ ministres. Et là, on a dit Vayar Ish Chashivut. Il est un représentant de quelque chose. Oui ? À ce moment-là, Moshe, 40 ans. Alors, le Midrash s'en donne à cœur joie, puisque nous dit le Midrash qu'il est parti en formation à Kouch, en Éthiopie, pour régner là-bas, pour se former à l'art de diriger. Bon, la malo. En tout cas, ici donc, Vayar Ish Mitzri. Ish, on a dit, Zemileshon Chashivut, c'est-à-dire que c'est le représentant ici de l'Égypte. Maké Ish Ivri, là aussi c'est le représentant, si on veut, des Hébreux, mais Echav. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, quand il a vu l'Égyptien frapper Dreyfus, il décide de prendre fait et cause pour l'identité d'Israël. Puisqu'on a dit qu'on faisait, Leilu Nishmato, Shel Binyamin Zeev, Herzl, alors on ne peut pas ne pas ici faire le parallèle, car il est évident. On parle ici d'un homme qui lui aussi a grandi avec une identité double. Quelle est cette identité double? Eh bien, c'est tout simple. Binyamin Zeev Herzl grandit comme étant juif, puisque de père et de mère juive, mais il grandit comme étant un enfant de la culture occidentale, Budapest et Vienne après. Et donc, est-ce qu'il est plus juif ou est-ce qu'il est plus viennois? Eh bien, dans la première partie de sa vie, il est évident qu'il choisit le côté de Vienne. Seulement, lorsqu'il est envoyé comme correspondant du journal Neue Freie Press de Vienne, correspondant à Paris, et qu'il va couvrir l'événement de la fin du 19e siècle, à savoir l'affaire Dreyfus, et qu'il voit que, alors que ce Dreyfus représente l'assimilé par excellence, et que malgré tout, il est ramené à sa condition de juif, alors il décide de prendre fait et cause pour l'identité juive, écrit le livre qui va changer la face du monde, L'État des Juifs, de Binyamin Zeev Herzl. Ok ? Donc, Agave, je dis Binyamin Zeev volontairement parce que c'est son nom juif, mais certains le connaissent mieux sous le nom de Théodore. Est-ce que le mot Théodore, le nom Théodore, est un nom qui me plaît au niveau de ce qu'il a représenté dans le monde ? Oui, car Théodore en allemand, ça veut dire Matania. C'est-à-dire Dieu a donné. C'est à la base du break. Mais quand on lui donne le nom, tu comprends bien que ses parents, ils ne parlent pas grec. Donc, tu as raison que l'origine, elle est grecque. Mais là, en l'occurrence, il parle allemand. C'est-à-dire, que ce soit en grec ou en allemand, Théodore, ça veut dire Dieu a donné. Donc, en l'occurrence, ça marche. Et donc, il prend fait et cause. Pardon ? Nathaniel. Ça va ? Gamoler. OK ? Donc, il prend fait et cause pour l'identité juive. Eh bien, là, c'est pareil. Lorsque Moshe, eh bien, voit l'Égyptien, c'est-à-dire celui qui domine, c'est la culture dominante, l'Égypte, frapper l'Hébreu, alors il décide qu'il ne peut pas se reconnaître dans la culture égyptienne. Le fort qui frappe le faible, ça ne passe pas. Et donc, il prend fait et cause, mais Echav. Oui. C'est pas top. Anachon, c'est pas top. Tu vas voir d'ailleurs à quel point c'est pas top. Disons que c'est une prise de position qui se base sur un point de vue moral. S'il aurait pris fait et cause pour l'Égypte, Nachon, exactement. Mais là, si tu veux, ça se base sur un point de vue moral. Morale douteuse, mais morale quand même. C'est-à-dire, lorsque tu as aujourd'hui toute la gauche, une grande partie de la gauche mondiale et israélienne qui te dit que c'est pas bien de battre comme il faut nos ennemis palestiniens, parce qu'ils disent, je ne parle pas de que tous les Palestiniens sont nos ennemis, je parle des ennemis qui se revendiquent palestiniens, à savoir ceux qui viennent, par exemple, jeter des pierres sur des soldats. Et quand on dit, tu ne vas quand même pas leur tirer une balle de M16, de M4 ou de Tavor sur des manifestants à lanceurs de pierres, c'est complètement disproportionné. Sauf qu'une pierre lancée violemment en pleine face, ça tue aussi bien qu'une balle. Donc, il est hors de question que je mette la vie de mes soldats en danger pour protéger un terroriste. C'est-à-dire, maintenant, de dire qu'il faut quand même la part d'une réflexion morale. Donc, si tu veux, ici, la base de la réflexion de Moshe, elle est morale. Est-ce qu'elle est juste? On va voir que non. Mais elle part d'un point de vue moral. Nous dit le Rambam que c'est la base de la névoie de Moshe. Le point de vue moral qu'il défend celui qui est faible. Même si des fois, il vaut mieux pas le défendre. Mais le fait d'avoir ce sentiment que quand on voit quelqu'un d'opprimé, on a envie de l'aider, c'est bien. Après, il faut savoir l'aiguiller, mais l'idée, à la base, elle est bonne. OK ? Donc, Me'echav. Vaifen kovako, kovako, vayar ki en ish. Vayach et amitzri, vaitmeneu bachol. Moshe a regardé, c'est quoi kovako ? Hein, à droite et à gauche. Genre pour vérifier que personne ne le regarde. Et ma baya qu'on le regarde. Attends, deux secondes. Pourquoi ça serait un problème de dire qu'il a regardé à gauche et à droite ? Et alors ? Disons que quelqu'un l'a vu faire ça. Quel est le problème ?
Ou alors il a regardé pour voir s'il y avait personne. Comme lui.
Ok, alors il a vu qu'il n'y avait personne. Et ça le dérange qu'il y ait des gens qui voient ce qu'il fait ? Pourquoi ? Tu as un autre Égyptien. J'ai pas compris. C'est quoi le statut de Moshe là jusqu'à maintenant ? Et le prince d'Égypte, il n'a pas droit de vie et de mort sur qui il veut ? Est-ce que le prince d'Égypte a droit de vie et de mort sur qui il le veut ? Complètement. Complètement. Pardon ? Nahon, c'est pas non plus le roi, mais t'en fais pas qu'il a des connexions avec le roi. C'est-à-dire qu'en tant que prince d'Égypte, il a droit de vie et de mort sur tout le monde. Donc c'est barour qu'il s'en fiche de savoir si on l'a regardé ou pas. D'ailleurs, on l'a vu faire. D'où je sais qu'on l'a vu faire ? Ben, le lendemain, les mecs, ils disent, tu vas pas nous faire ça comme... Donc, les gens l'ont vu. Donc, c'est pas ça qui dérange. Comme tu dis, Kovacho, nous dit Chazal, et le Zohar également, qu'en fait, il a regardé d'un côté de l'histoire et de l'autre. Et il a vu que rien d'autre n'allait sortir de cet Égyptien. Est-ce que c'est de cet Égyptien en particulier ? Non ! De l'Égypte. Et donc, il a dit, c'est le moment maintenant d'ensevelir l'Égypte dans les sables de l'histoire. En d'autres termes, qu'est-ce qui va maintenant servir pour l'humanité de l'Égypte ? C'est ce qu'on va déterrer dans l'archéologie. Et donc, il l'a enseveli dans le sable. Oui ?
Il a hésité. Il a
un passage. Ah ben oui, évidemment ! Non, mais là, ça y est. Là, il n'a plus le doux sa vie parce qu'il a choisi de prendre fête et cause pour les Hébreux. Il y a marqué « Me'echav ». Donc maintenant, ça y est, c'est terminé. Je prends la direction hébraïque et... Avant de tuer cet homme-là, je vais vérifier. Agave. Quoi ? Lama. Vaïfen ko vacho. Vayar ki en ish. Vayach et amitri. Hein ? Ça ? Maintenant. Oui, tout à fait. Mais il a prémédité. C'est ce qu'on appelle assistance à personne en danger. Ah, bah peut-être qu'il n'a pas pu lui faire une prise de judo. Oui.
Il a vu si cet homme avait.
Oui. C'est-à-dire qu'il a dit il faut le tuer. Mais est-ce que ça vaut le coup de le tuer ou pas ? Et finalement, oui. Toi, tu dis il aurait peut-être pu l'arrêter, le mettre en prison et tout ça, machin. Les mœurs de l'époque ne sont pas les mœurs d'aujourd'hui. C'est-à-dire ? Maintenant, est-ce que c'est vrai que personne n'est sorti de cet homme-là ? L'eau. Quelqu'un est, oui, sorti de cet homme-là. Ah oui. Puisque c'est qui ce quelqu'un qui est sorti de cet homme-là ? Et exactement. Cet Égyptien avait violé une femme juive. Et cette femme juive s'appelait Shelomit Bat Divri, le Shevet Dan. Et elle avait un fils avec cet Égyptien. Ce fils est devenu Amekalel. C'est lui qui, dans le livre de Bamidbar, est Mekalel et Hachem, et que Moshe va devoir tuer également. Ah, la tradition. On n'a aucun texte qui nous dit là-dessus, l'Amrot, que lorsqu'on va nous présenter ce fameux Mekalel et qu'on nous dit qu'il est le fils de Shlomit Bat Divri Mishavet Dan, on nous dit qu'il a un papa égyptien. Donc, on sait que c'est un mec qui a un papa égyptien qui a un problème avec Moshe. Parce qu'on voit qu'il a un problème avec Moshe. Là-bas, dans le texte, il ne s'entend pas du tout avec Moshe. Donc, de là, Chazal vont expliquer que, bah oui, d'où il a ce problème avec Moshe, c'est qu'il a grandi sans son père à cause de Moshe. Parce que Moshe a tué son père. Maintenant, effectivement, ce n'est pas marqué dans la Torah. Tu sais pourquoi ce n'est pas marqué dans la Torah ? Parce que ça ne nous avance à rien de savoir ça, là, dans la Torah. Dans la Torah orale, ça nous avance à le savoir. Pour savoir que lorsque va se présenter le Mekalel, bien que tu saches qu'il y a un contexte à tout ça. Mais ici, pour comprendre l'événement, tu n'as pas besoin de savoir ça. OK ?
Mekalel,
c'est
dire
qui a, comment dire, maudit Dieu, blasphémé. OK ? Bekitsour, donc finalement, Moshe va tuer l'Égyptien. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait ? Et donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Là, le soir, à la fin de la journée, il fait quoi ? Sans rien du tout. Où il va ? Chez lui. C'est où chez lui ? Bah, pitom, il ne va plus au palais. Maintenant, il a choisi son camp. Chez ses parents ? Il va chez sa mère. Quoi ? Et il a une famille hébraïque, que je sache. Donc, il y va. Bah, évidemment. Vayetse bayom hasheni. Donc, le lendemain. C'est-à-dire que le lendemain, après avoir donc pris fait et cause pour les Hébreux, maintenant il s'intègre dans l'identité hébraïque, il se rend compte qu'à l'intérieur du peuple juif, il y a des gens qui sont pourris. Il se rend compte que les Hébreux sont pourris. Il ne les a jamais côtoyés, vraiment, les Hébreux. Hier, il a renié l'identité égyptienne parce qu'elle était violente et persécutrice, je ne sais pas si ça se dit, de ceux qui sont plus faibles. Maintenant, il va du côté des Hébreux et il se rend compte qu'il y a des problèmes internes chez les Hébreux. Ils sont pourris. Alors, il essaye de voir. Vayomer la racha, lama takerecha. Donc là encore, on n'a pas besoin de savoir qui c'est ces deux personnages-là dans le texte ici, mais on va savoir dans la Torah Shebealpé que ce sont Datan et Aviram. Et on verra qu'à chaque fois qu'il y a un problème, c'est ces deux-là qui reviennent face à Moshe. Mais ici, on n'a pas besoin de le savoir, ça ne s'intéresse pas, parce qu'ils ne sont pas, si tu veux, pourquoi est-ce que ici on ne t'a pas dit que c'était le monsieur qui a violé des Shlomit Bat Divri ? Parce que ça aurait été besoin de le personnaliser. Il représente l'Égypte de la même façon que ces deux Hébreux-là. On s'en fiche de savoir que c'est Datan et Aviram, il représente les Hébreux. Lama takerecha, vayomer, mi samcha le ish sar ve shofet alenu. En français, pour qui tu te prends ? Pour qui tu te prends de te mêler de nos affaires ? Vas-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ? Bon, moi j'ai un problème. Qu'est-ce que c'est que pour qui tu te prends ? Excusez-moi, vous ne me remettez pas ? Je suis Moïse. Je suis le prince d'Égypte. Tu as une pièce de monnaie dans ta poche ? Regarde, ça me ressemble, c'est moi. Sur tous les billets de banque, c'est moi. Sur tous les posters dans toute l'Égypte, c'est moi. Tu me remets pas ? Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Misamcha leish sar veshofet alenu. C'est le prince d'Égypte. Yafé, jusqu'à hier, tu étais le prince d'Égypte. Mais depuis hier, tu es devenu un Hébreu parmi tous les Hébreux. Tu as envie de devenir le chef ? Viens, on organise des élections, on verra, peut-être tu seras choisi. Mais là, pour l'instant, misamcha le ish sar veshofet alenu. Est-ce que tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien ? Vayira Moshe vayomar achen noda adavar. Là, Moshe, il a dit, ben voilà, maintenant j'ai compris. Rashi dit, noda li adavar. C'est-à-dire, maintenant j'ai compris, ça y est, j'ai compris. Quoi ? Il me dit, Rashi, que, d'après le Midrash, que Moshe, il s'est toujours posé une grande question. Il dit, j'ai jamais compris pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs, les Hébreux, pour être le seul peuple persécuté comme ça. Lama. Maintenant, je comprends. Ils sont pourris. c'est des gens pourris, donc c'est pas plus mal qu'ils soient persécutés, parce que s'ils étaient libres, oh, il va à Voy, qu'est-ce qu'on ferait de ces gens-là ? Ces gens-là feraient n'importe quoi. Regarde comment ils se comportent. Donc c'est pas plus mal qu'il y ait un autre peuple qui les domine, comme ça au moins, ça les laisse pas exprimer leur n'importe quoi-ise. Alors certes, les Égyptiens, ils ont un peu trop exagéré, mais c'est, je comprends pourquoi les Hébreux, ils ne méritent pas. Hein ? Hein ? Ben, ils étaient là. Ils ont vu. Ben, c'est une parole. C'est une parole qui est très représentative. Je veux dire, les mecs, ils se disputent et Moshe, il vient, il essaye de régler le litige. C'est pour ça que, encore une fois, c'est justement pour ça qu'on ne nous a pas dit que c'était Datan et Aviram. C'est justement pour ça qu'on te les a présentés comme étant des Hébreux. Pour te dire qu'ils se représentent quelque chose de beaucoup plus global. S'il y avait eu marqué Datan et Aviram, alors t'aurais dit c'est ces deux-là. Non, c'est les Hébreux. C'est-à-dire ? Donc, qu'est-ce qu'il fait Moshe ? Hein ? Ben, Vaishma, pour l'instant, il est Amoum. Vaishma Paro. Et t'as d'avoir rasé. Et c'est d'avoir. Quels événements ? Et alors, on s'en fiche, on a dit. Franchement, entre nous, ils en ont tué certainement beaucoup plus qu'un des Égyptiens. Qu'il n'est ni avec les Égyptiens, ni non plus maintenant avec les Hébreux. C'est un électron libre, ce Moshe. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un électron libre. S'il avait été vraiment un Hébreu, Pharaon, il ne l'aurait pas tué. Parce qu'il serait devenu le fils d'Amram, le fils du chef des esclaves. On ne tue pas le fils du chef de la CGT. Parce que sinon, tu vas avoir des émeutes dans tout le pays. Mais là, Moshe, il n'est plus rien. Il n'est ni égyptien, ni hébreu. Et là, il devient très dangereux. Et donc, bah, vaivrach Moshe mipene paro, parce qu'il n'est ni pro-égyptien, ni pro-hébreu. Moshe a rejeté l'identité égyptienne, il a rejeté l'identité hébraïque. Alors, qu'est-ce qu'il va faire maintenant ?
À quel moment il a rejeté
ben là, maintenant. Il dit, ah ben maintenant j'ai compris pourquoi les Hébreux, ils sont pourris. Ils sont pourris. Donc, je ne veux plus être avec eux. Ben, ni Boréa.
Après que le lendemain, après que sa mère, il s'est allongé.
Quoi ? Ah, mais tu dis, il a vu des gens bien chez ses parents. Céder ! Mais c'est comme tous les antisémites. Ils te diront, mais moi, je ne suis pas antisémite. J'ai des très bons amis juifs. C'est-à-dire, Moshe, il va te dire, ben non, mais ma mère, elle est différente. Mais les Hébreux, ils sont pourris. Agave, il y a Choliot Meod, que les Hébreux, à l'époque, ils étaient pourris. Je te rappelle que si tu lis le livre de Yéhezkel au chapitre 20, eh bien, tu verras là-bas comment le prophète Yéhezkel nous dépeint les Bnei Israël à l'époque de l'Égypte. On était tombés dans toutes les perversions égyptiennes. Ce qui amènera nos sages à dire qu'ils sont tombés dans les 49e degré d'impureté. Genre, on faisait toutes les Giloulet Mitzrayim. On était pourris. Mais non, c'est sûr qu'il y avait des gens bien par-ci, par-là, comme Amram et Yocheved. Mais de manière générale, on est devenus pourris. Oui ? Nahon, on dit que c'est parce que Pharaon, il veut le tuer. Mais j'ai dit, pourquoi Pharaon, il veut le tuer ? Parce qu'il est nishtahin, nishtaher, comme on dit en arabe. Il est ni là, ni là. Donc, de là, tu apprends qu'il a rejeté ça, on l'a vu, et qu'il a rejeté ça, maintenant, on le comprend. Et donc, où est-ce qu'il va ?
À ce moment-là, il sait pas où il habite.
Il sait qu'il est ni là, ni là. Donc, il doit chercher un nouvel endroit. Il cherche son identité. La vérité, c'est qu'il sait très bien où il veut aller. Regardez où il va. Vaivrach Moshe mipene paro vayeshev be'eretz midyan vayeshev ala beher. Donc, on voit très bien que Moshe, il sait où il veut aller. Il va à Midian. C'est où, Midian ? C'est le nord de l'Arabie Saoudite actuelle, plus ou moins. Nord-ouest. Donc, ce n'est pas la porte à côté.
Midian, ça donne Médine
aujourd'hui ? C'est une bonne question. Médine, c'est un peu plus au sud, mais... Yesh bezemachou. Yecholiot, c'est quoi ? J'y ai jamais vraiment pensé, mais...
À vérifier,
mais ça a du sens en tout cas. Ça a du sens. Hein ? Un beurre, non, beurre, c'est pas un puits de pétrole. Oui? Avec les filles de Midian. Oui. Non, ils ne sont pas en contact, pas du tout. Ils sont en contact avec les filles de Midian qui ont été amenées ici par le roi de Moab. Non, tu n'as pas compris. La personnalité politique à laquelle on fait face dans la parasha de Pinchas, c'est Moab. Okay, l'endroit où on se tient, on se trouve à ce moment-là, à Shittim, c'est à côté de Eretz Moab. Okay, maintenant, ce Eretz Moab, ce roi de Moab qui s'appelle Balak, on nous dit dans la paracha de Balak qu'il est entouré de conseillers midianites. En d'autres termes, tu vois qu'il y avait des contacts très poussés entre les gens de Moab et les gens de Midian. Donc, il y avait des prostituées midianites chez Moab. C'est une colonie, si tu veux. C'est une colonie midianite chez les Moabites. Bekitsour, là, il va à Midian. Donc, on a dit que ce n'est pas la porte à côté. Si on te dit qu'il va jusque là-bas, c'est qu'il sait très bien ce qu'il veut faire. Il va là-bas. Il ne va pas stam, il va errer dans le désert et il se trouve qu'il est à Midian. Il va à Midian. Et pourquoi ? Yitro ? Comment tu sais que Yitro est là à Midian ? Alors, le Midrash nous dit qu'il le connaît, puisque c'était un des conseillers de Pharaon. Sauf qu'il a été viré de chez Pharaon quand Moshe était bébé. Donc, il y a à peu près, allez, 37 ans, 38 ans. Donc, est-ce qu'il s'en rappelle vraiment ? Et puis, même si, disons qu'il s'en rappelle, qui te dit qu'il est parti à Midian ? Ça, il ne le sait pas, Moshe. Exactement. Moshe, il a étudié chez Amram l'histoire de son peuple. Midian, c'est un des fils d'Abraham. Et oui, Abraham, il a eu Yitzhak, il a eu Ishmaël, et puis après, il a eu 6 enfants de Keturah. On l'a étudié ensemble. Et un de ces 6 enfants, le seul qui n'est pas parti trop à l'est, c'est Midian. Donc, si Moshe, il veut aller à Midian, c'est qu'il recherche les vestiges de la Torah d'Abraham. Il ne la retrouve pas chez les Hébreux, donc il va aller chercher un vestige de la Torah d'Abraham.
Pourquoi il
n'est
pas
arrêté chez Ishmaël ?
Non,
oui. Ah, alors attends deux secondes. Très bonne question. Pourquoi il n'a pas d'abord été... Hein ? Ah, pourquoi il n'est pas parti jusqu'à Oukazim ? À Oukazim, il n'y a personne. Non, il n'y a plus personne à Oukazim. À la limite, Haran. La Torah d'Abraham. Oui, mais quand oui, mais c'est ce que je te dis. Quand Abraham il était à Oukazdim, il n'a pas encore développé sa Torah. Alors Haran. Peut-être tu peux dire Haran. Alors attends, alors, je vais répondre un par un. Pourquoi il n'a pas été chercher Ishmaël ? Parce qu'il voit que Ishmaël est très lié à l'Égypte. N'oublions pas que sa mère à Ishmaël lui a pris une femme égyptienne. Donc il rejette Ishmaël à cause du comportement des Égyptiens. Il rejette Yitzhak à cause du comportement des Hébreux. Donc, toi, tu dis, bah alors, pourquoi est-ce qu'il n'irait pas chez la famille d'Abraham à Haran, chez Nahor, par exemple ? Tout simplement parce que Nahor, ce n'est pas la Torah d'Abraham. La Torah d'Abraham, c'est celle qu'il a donnée à ses descendants. Donc, maintenant, il n'y a plus que comme descendants, il n'y a plus que dans la région Midian. Les autres sont trop loin. OK ? Donc, il va à Midian. Et pour enfoncer le clou, on nous dit qu'il va à la Be'er, qu'il va s'installer au puits. Rashi nous dit, Mi Yaakov avinu lamad, shelo misdavek zivugo ella ala beher. C'est-à-dire qu'il a appris ça, qu'il fallait aller se poser au puits, il l'a appris de Yaakov. Pourquoi ? Parce que c'est là-bas qu'on rencontre sa meuf. Où est-ce qu'on rencontre une femme ? C'est bien connu. Au puits. Voilà, tu sais où elle est. Tu vas te poser à côté d'un puits et t'attends. Voilà. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous avez fait, vous, respectivement, mais c'est comme ça. Tu dis qu'il n'y avait pas de pluie à Nancy. Il n'y avait pas de pluie. Ah, c'est ça le problème. Mais qui ça arrive au puits. Mi Yaakov avinu lamad. D'accord, mais Yaakov, qu'est-ce qu'il a été faire au puits ? Il n'a pas été simplement chercher une femme. Avec cette femme, il voulait faire quoi ? C'est quoi l'objectif de Yaakov ? De créer le peuple juif. Donc, si Moshe... Mi Yaakov avinu lamad, qu'est-ce qu'il est parti faire à Midian ? Pour créer un nouveau peuple. Pas le peuple juif, il est là, il est en Égypte. Mais il veut créer un nouveau peuple. Comment tu connais cette phrase ? Comment tu connais cette phrase? Ah, bah donc on ne connaît pas. Tout ce qui vient après, on ne connaît pas. C'est-à-dire, donc, Moshe, il veut créer un nouveau peuple, un peuple mosaïque. Vous connaissez ça, des Français de confession mosaïque? C'est-à-dire, c'est ce qu'il veut créer. Toute ressemblance, évidemment, avec un cas actuel sur le plan fortuit involontaire, bien sûr. Hein? Ah, pour Napoléon, ce n'est pas un grand mot. Ça veut dire que ce sont des Français qui n'ont plus rien à voir avec les Juifs de l'Est du Rhin. Et ils ont une religion, ils ont des pratiques à eux qu'on va appeler les pratiques de Moïse. Mais c'est ça que Napoléon voulait dire quand il disait mosaïque de Moïse. C'est-à-dire, mais il voulait surtout dire que ce sont des Français, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun lien entre les Juifs de France et les Juifs de Vienne. C'est-à-dire, donc voilà, Moshe veut créer son nouveau peuple. Nous, Vazma Koré. Ulechoen Midian, Sheva Banot. Hein? Bah, Hashem. Hein? Sept filles. Ulechoen Midian, Sheva Banot. Vatavona. Comment on sait qu'il y a. Alors, dans le monde des Yeshivot, on dit comment on sait que Yitro, il avait sept filles. Il dit parce que regardez dans le verset, il y a marqué Vatavona, Vatidlena, Vatemalena. À chaque fois, c'est fois deux. Donc, ça fait 6. Et la septième, le texte ne l'a pas marqué pour ne pas manquer de tzniout. Regardez comment les gens de la yeshiva, ils arrivent à faire d'un chemin tout droit, comme ça. C'est-à-dire que la Gemara, Bemet, elle nous explique comment on sait que Yitro, il avait cette fille, parce qu'il y a marqué Vatavona, Vatidlena, Vatemalena. Shtaim, Shtaim, Shtaim. Et la septième, elle est dedans. Ou alors, tu peux juste dire qu'il y a marqué ou le Kohen Midian, Sheva Banot. Ça marche aussi pour savoir qu'il en avait 7. C'est-à-dire, donc il avait 7 filles, Nounou, Vatavona, Vatidlena, Vatemalena, et Araatim, la Ashkotson, Avihem. Donc ce sont des bergères. Dans la culture de l'époque, c'est quoi un berger? C'est un manig, un chef. Donc c'est exactement ça qu'il cherche, Moshe. Vayavou Aroim, Vayegarshum, Vayakom Moshe, Vayoshian, Vayashk, et Tonam. Les autres bergers sont arrivés, ils ont chassé les jeunes filles, et Moshe, il a dit « Nein !» Et il est venu, et il les a éclatés. Ma. Vayash ket tsonam, et ta tson chelem. Ah, tu dis, il aurait dû avoir marqué tsonan. C'est ça que tu veux dire. Mais c'est lo atson chelahen. C'est atson chel ahem ve aviem. בסדר? זה גם שלו וגם שלהם. מילה ורבועה נות משה נשאו... כה? נכון, צון אביהם. נו. את צונות, עוד ימחקה. ובסקו, אילה וירה לברג'ה. לטרופו דה ברג'ה, יצאו שורלה. דונק, כיווה לרדוני הבואר התולמון. ליפה כמצא, משה. Oh, un saut de plus, un saut de moins. Mais il recommence à faire son... Il y a quelqu'un qui est frappé, j'interviens. C'est chouv. Cet acte moussari, moral, de prendre la défense de celui qui souffre. Donc très bien. Vatavona el reuel avihem. Alors comment il s'appelle leur papa? Reuel. Ah, ça veut dire, il relote qu'il a plusieurs noms. D'accord, il peut avoir plusieurs noms. On va voir que ça va être un grand problème de compréhension beaucoup plus tard, dans la paracha de Baalotecha. Parce que là-bas, il semblerait que Reuel, c'est le père de Yitro. D'après ce que le verset là-bas. Mais bon, venez, on verra quand on y sera. D'accord. C'est-à-dire, je laisse ça ouvert, on verra dans... Donc, Vatavona el Reuel avihen, Vayomer madua mi'artem bo ayom. D'habitude, vous prenez beaucoup plus de temps. Eh ben, va tomarna, ish mitzri, itzilanu miyadaroim, vegam dalo dalal lanu veyash ketson, etatson. Un Égyptien nous a sauvés. Est-ce que c'est normal qu'elle parle comme ça? Qu'elle dise un Égyptien nous a sauvés? Ben évidemment, il ressemble à un Égyptien, qu'est-ce que je te dis? Il est habillé à l'Égyptienne, il est rasé à l'Égyptienne. T'imagines, il avait sa petite barbiche, hein? Eh! Dans les dessins animés, il a la petite barbiche. Il avait une jupette. Hein? Il se promenait de profil, bien sûr. Bien sûr. Et il avait un très joli nez, d'ailleurs. Ça va ? Hein ? Pas encore. C'est en moins 50 avant que Obélix il est passé par là. Je fais des anachronismes incroyables. Bekitsour, c'est tout à fait normal qu'elle le prenne pour un Égyptien. Ce qui est moins normal, c'est Vayomer el benotav, Vayolama ze azavtem et ha'ish kir'en lo vayochal lachem. Ça se fait pas, vous l'avez laissé là-bas ? Ramenez-le. C'est-à-dire que Reuel montre quelle est sa qualité première. C'est quoi ? Chesed. C'est exactement la Torah d'Abraham. Donc c'est exactement ce que Moshe était parti chercher. Vayol Moshe la Shevet et Aish. Alors, notre problème, il est le suivant. Ish Mitzri itzilanu miyad haro'im. On a dit que c'est les filles qui l'ont. Ils vont dire qu'à cause de ce verset-là, Moshe ne sera pas enterré en Eretz Israël. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas protesté. Mais il n'était pas là. Il ne peut pas protester, il n'était pas là. Attends. Vers Moshe, c'est autre chose.
Il a dû se présenter quand
même. Il a fait ! C'est vrai qu'il n'était pas là quand elles l'ont dit la première fois. Mais quand il est arrivé, finalement, ben, il est présentable et il s'est présenté et on l'a présenté et à ce moment-là, il n'a rien dit, comme un Égyptien. Et on va donc dire que de là, à la différence de Yosef qui a dit « Gonov gunav tim eretz ivrim », qui a dit « Moi, je viens de la terre des Hébreux », alors il aura le mérite d'être enterré dans la terre des Hébreux. « Moshe shelo oda be'artso, lo nikvar be'artso ». Mais en même temps,
il y a une explication à ça.
Que quoi qu'il a
pris parti.
Bah, on vient de dire l'explication. Il a un problème avec son identité hébraïque pour l'instant, Moshe. Et Yosef, non ? Et Yosef, non ? Tu veux trouver des circonstances atténuantes à Moshe ?
C'est
non,
je comprends
pas. Pourquoi on l'a puni de ne pas être enterré ? T'inquiète pas, on lui a trouvé d'autres raisons pour ne pas rentrer. Le coup du rocher, les explorateurs, non, non, non. Pourquoi il faut tant de raisons ? Tu comprends que ça veut dire que on va dire comme ça. Il ne fallait pas qu'il rentre. Après, viens, on va essayer de comprendre, on va trouver des raisons pourquoi il ne faut pas qu'il rentre. Mais d'abord, il ne faut pas qu'il rentre. Pourquoi ? Parce que si Moshe, il rentre, oh, il va voir à nous. Parce que si Moshe, il rentre en Israël, Am Israël, il est complètement effacé par Moshe. Et donc, eh bien, Am Israël ne pourra pas du tout être celui qui remplit la promesse que Dieu a faite à Avraham. Parce que Moshe, il est trop là. Donc Moshe, il ne faut pas qu'il rentre. Maintenant, comme il faut quand même qu'on soit juste, il faut trouver une raison pour laquelle il ne rentrera pas. Donc, le grand sport de Dieu, c'est de trouver des raisons pourquoi Moshe ne rentrera pas en Israël. Ben voilà, je viens de te la donner.
La vraie raison.
Ben je viens de te la donner.
Oui, mais pourquoi on a besoin de toutes les autres raisons ?
Ah, pourquoi est-ce qu'on a besoin de toutes les autres raisons ? Parce que Zélo y a fait, c'est pas beau de dire que c'est à cause de nous que Moshe n'est pas rentré en Israël. Donc, Mipat, Kvodo, Shelam, Israël, Dieu, il ne le dit pas. Parce que, de toute façon, tu sais bien que ce n'est pas de sa faute. Dans tous les cas, tu sais que ce n'est pas de sa faute. Donc, tu vas faire preuve de jugeote et tu vas savoir qu'en fait, il ne fallait pas qu'il rentre. Mais je suis d'accord avec toi que ça nous dérange. Jusqu'à maintenant, ça nous dérange. Jusqu'à maintenant, on aimerait bien que Moshe il soit là. Altidagi, il reviendra.
Une raison, en fait, qu'est-ce qu'on
sait
de ce qu'Hachem lui-même a dit ? La raison pour laquelle ?
Ça ? Il n'y a rien à voir. Tout à fait. Moshe, Dieu il lui a dit clairement, tu ne rentres pas à cause de ce qui s'est passé, même Merivat Kadesh. Ça me va ? Ça me va ? C'est sûr que ce n'est pas à cause de ça, mais ça me va. Parce que Moshe lui-même, il le dit.
Non, Moshe a dit, c'est à cause de vous.
D'accord. Donc ce n'est pas à cause de ce que moi j'ai fait au rocher.
Ils l'ont énervé.
C'est à cause de ça ? Ça, c'est toi qui fais le pérouche. Lui, il dit, c'est à cause de vous. Il ne dit pas c'est à cause de vous parce que vous m'avez énervé et que donc j'ai fait la faute du rocher. Oui, mais qui te dit que c'est à cause de ça? Quand il dit « c'est à cause de vous », qui te dit que c'est… Il pense à l'énervement qu'il a fait taper sur le rocher. Et qui t'a dit que c'est parce qu'il était énervé qu'il a tapé sur le rocher? Ça, c'est pas parce qu'il était énervé qu'il a tapé sur le rocher, parce qu'il était énervé. Oui, mais je viens de te ramener un autre truc qui nous est dit quand même. Le fait que Moshe dit « c'est à cause de vous », c'est aussi un verset de la Torah. Donc, c'est-à-dire… T'as un verset qui me dit « Dieu, il a dit, c'est à cause de Mémérivat Kadesh ». T'as un autre verset qui dit « Non, mais c'est à cause de vous ». Donc, c'est deux versets qui ne vont pas ensemble l'un à l'autre. Toi, tu viens essayer de rassembler les deux. J'accepte. En regardant les deux, tu dis « Ils ne veulent pas dire la même chose, donc moi, je vais essayer de faire un pont entre les deux ». Ah bah si, ils ne disent pas la même chose, les deux versets. Qui te dit? Mais qui te dit? Ah bah non, Slicha, c'est pas marqué… Non, mais moi, je veux bien être avec toi, mais c'est, je veux dire, tu utilises des versets, mais tu fais le pont qui ne vient pas du verset. Il y a marqué « c'est à cause de vous ». Il n'y a pas marqué « c'est à cause de vous parce que vous m'avez énervé et que donc j'ai tapé ». Mais je suis pas d'accord. Bah, on n'a pas la même lecture parce que moi, j'ai lu qu'il était énervé. Et j'ai lu qu'il a frappé sur le rocher. Ah, parce qu'ils ont demandé de l'eau. Comment ça, comment? Ah, ils ont dit « Ah, on a soif !» Et qu'il était en plein en deuil de sa sœur. Et « Shimuna Amorim !» Mais est-ce que c'est pour ça qu'il a tapé? Ou est-ce qu'il était très énervé parce qu'ils l'ont énervé? Et après, il a pris une douche et puis il a tapé. Je te rappelle, et c'est un joker que je vais utiliser, mais tu ne me laisses point le choix. Je te rappelle qu'entre le moment où ils l'ont énervé et le moment où il a tapé, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il lui a parlé. Or, Dieu ne peut pas parler à quelqu'un qui est koès. Un avis chez ou koès, shrinaton mistaleket mimeno. Donc, un avis qui est en état d'énervement, Dieu ne lui parle pas. Donc, si Dieu lui a parlé, c'est que d'abord, il s'est calmé, il a pris une douche, Dieu lui a parlé et ensuite, il a tapé. Donc, ce n'est pas forcément à cause de l'énervement d'avant qu'il a tapé. Peut-être qu'il a tapé pour d'autres raisons. On ne va pas étudier maintenant la paracha Trukat, mais je suis tout à fait d'accord avec vous tous que la Torah volontairement, ben, ce n'est pas clair pourquoi Moshe ne rentre pas en Israël. Et c'est pour ça que, pas seulement là, tous les commentateurs essayent de trouver un milliard de raisons pour lesquelles il n'est pas rentré. Pourquoi ? Je cherche tout le monde qui ne soit pas rentré. Ça nous fait mal au cœur. Qui plus que Moshe aurait dû rentrer ? C'est vrai ? L'Odia, peut-être. Avec des si, on mettrait le désert en bouteille. Donc je ne sais pas. Ah si, là on a dit, va échève à la ber. Non, on a dit va échève à la ber. Ça veut dire qu'il a appris de Yaakov Avinu. Or, Yaakov Avinu, il est parti créer un peuple. Donc, s'il a appris de Yaakov, il a appris de Yaakov qu'on va créer un nouveau peuple. D'ailleurs, alors, je fais quelque chose qu'on n'a pas le droit, mais moi, j'ai le droit. Quand Dieu va lui parler au Sné, il lui dit que son projet n'est pas le bon. Eh oui, parce que on a pas encore, dans deux secondes, on va voir, mais il est resté combien de temps chez Yitro? 40 ans. Donc, c'est déjà comme il faut. Et finalement, au buisson, Dieu lui dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. » Comme si on ne savait pas que le peuple de Dieu, il est en Égypte. C'est pour expliquer à Moshe qui est mon peuple. Toi, tu as cru que tu étais en train de faire ton nouveau truc. Non, c'est mon peuple. Mais bon, tout ça, on y reviendra dans quelques minutes. Bekitsour, il est chez Yitro. Il s'est marié, finalement, avec Tzipora, l'aîné de Yitro. Vakol Sababa. Donc, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Va Yoel Moshe, la chevet est à Ish. Qu'est-ce que ça veut dire? Va Yoel Moshe, la chevet est à Ish. Il lui a fait le serment de ne pas partir de chez lui. C'est-à-dire sans sa permission. C'est pour ça que lorsqu'il voudra partir, il devra demander la permission à Yitro. Mais Chazal ont une indication qui complète celle-là. Mais c'est va Yoel Moshe la chevet et Aish, Igdish et Beno la Avodah Zara. Ah. Ben oui, parce qu'il ne faut pas oublier que Yitro, à ce moment-là, il est Oved Avodah Zara. Et donc, il aurait promis à consacrer, si vous voulez, son premier fils à la Avodah Zara.
C'est quand même un peu bizarre de venir se marier avec la fille d'un Oved Avodah Zara quand il cherchait la Torah originellement.
Quand c'est vrai qu'il était Oved Avodah Zara, mais Oved Avodah Zara, Oved Avodah Zara particulier. Pourquoi ? On dit, Razal, que « Ouavad est kol Avodah Zara sheba olam ». Alors, tu as deux façons de comprendre. Soit une façon un petit peu enfantine, de dire que chaque semaine, il changeait de Avodah Zara. Il les a tout essayés. Soit la compréhension que Manitou a enseignée, à savoir qu'il les faisait toutes en même temps. C'est-à-dire qu'il comprenait Yesod à Ardout. Il comprenait que Behemet, Hashem Echad, mais il ne savait pas l'exprimer bien. Et donc, il faisait toutes les Avodah Zarot, parce qu'il comprenait qu'on ne peut pas servir Dieu seulement avec une partie de la Avodah Zara. C'est toute la Avodah Zara. C'est-à-dire qu'il ressentait cette dimension de Ardout. Mais il n'a pas encore eu l'enseignement de Moshe qui va lui expliquer qu'est-ce que c'est Hashem Echad. Donc il y avait quand même ce sentiment-là. Il était panthéiste, à la mode de Spinoza. OK ? Donc, Vayoel Moshe, la Shevet et Taïch, Agav, ce verset va servir de point de départ, de point de base pour le titre du livre. Du rabbi Yoel Moshe Teitelbaum, le rabbi de Sotmer. Son livre va s'appeler « Vayoel Moshe ». Ok ? De la même façon que « Vayoel Moshe », qu'il a promis de rester chez Yitro, bien le rabbi de Sotmer écrit son livre « Vayoel Moshe » pour dire que le peuple juif doit rester en galoute. C'est toi qui l'as dit. C'est-à-dire, ça sera enregistré à ton nom. Ok ? בקיצור, ויואל משה לשבת את האיש, ויתן את ציפורה ביתו למשה. ותלת בן ויקחה את שמו גרשום, כי אמר, גר הייתי בארץ נוכריה. או? אין לי יורד אספואר. היא פעל מדיינית, מנון, סרטנמו, היא לפעה קורס, היא לפעה נולפן דו מדיינית, הוא הלור אג'יפציה. נו, היא לפעה נברו. סרוסור. וכסכי... הוא סן פרופון דמון כ... ou l'homipo. Ok, donc il y a quand même cette lueur d'espoir. Vayi ba'emi ma'em, vayi ba'emi ma'rabi ma'em, vayamot melech mitzrayim, vayanechu b'nei Yisrael min ha'avoda, vayizaku v'tal shavatam el ha'elohim min ha'avoda. Pharaon est mort, le roi est mort, vive le roi, il y a un nouveau pharaon qui monte sur le trône et qui renforce l'esclavage chez les Hébreux. Les Hébreux, ils en ont marre, il crie Dieu, aïe aïe aïe, aide-nous. Vaishma Elohim et Naakatam, Vaiskor Elohim et Berito, et Avraham, et Yitzhak, et Yaakov, Vayar Elohim et Bene Israël, Vayeda Elohim. En d'autres termes, ça y est. Ça y est, c'est le moment de commencer le processus qui va s'appeler la sortie d'Égypte. Sauf que, l'acteur principal de la sortie d'Égypte est loin, loin, loin enfermé dans l'exil tant physique que spirituel que sa nouvelle conception de ce que doit être le rapport au divin. Ce qui veut dire que pour pouvoir faire sortir le peuple juif d'Égypte, il va falloir d'abord enseigner à Moshe pourquoi il est passé par toutes ces évolutions. Et pourquoi il fallait qu'il passe par tout ça pour être Goël Israël. Mais tout ça, cet enseignement-là, eh bien, on le verra la semaine prochaine. Chazak u Baruch.